Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, une étape dans la transition gabonaise. Le nouveau code électoral a été adopté hier par les députés et les sénateurs. Un jalon important vers les élections attendues d'ici le mois d'août. L'appel d'un avocat en RDC. Ensuite, il défend un jeune homme récemment condamné à mort, reconnu coupable d'être un Kulouna, un membre d'un gang. Mais il serait en réalité simplement le membre d'une chorale évangélique. Trump 2, Trump le retour, investiture officielle hier à Washington et des attentes pour le Somaliland, notamment région séparatiste de la Somalie. Un député américain a écrit à la nouvelle administration américaine pour réclamer une reconnaissance sur la scène internationale. L'arrestation du rebelle centrafricain Armel Sayo, arrestation au Cameroun, annoncée par le gouvernement de Bangui qui affirme avoir sollicité une extradition. La Centrafrique ou le Fonds monétaire international suit de près les évolutions autour du marché du carburant. Le FMI refermait une mission hier à Bangui. Et puis, une nouvelle polémique autour de Samuel Eto'o, le président de la Fédération de foot du Cameroun. Il a reçu une distinction hautement honorifique des mains d'un chef traditionnel du Nord-Ouest. Mais problème, sur place, la confrérie des chefs traditionnels désavoue. Un texte pour encadrer les élections futures au Gabon. Pour encadrer donc les scrutins qui doivent normalement refermer dans moins de 7 mois la transition débutée après le coup d'État d'août 2023. Ce texte, c'est le nouveau code électoral qui a été adopté hier en assemblée plénière à Libreville. Yves-Laurent Goma, députés et sénateurs ont donné leur feu vert après un consensus dégagé en commission mixte paritaire.
À l'Assemblée nationale et au Sénat, le nouveau code électoral est salué comme une avancée majeure en matière de transparence électorale. Paul Biogemba est député et président par intérim du Parti démocratique gabonais, le parti chassé du pouvoir par les militaires.
On a essayé de faire en sorte que à chaque étape du processus, il y ait sécurité, transparence, justice. Des élections justes. Je pense que c'est un grand pas et je pense que les scrutins qui sont prévus très prochainement cette année devront se dérouler de manière plus satisfaisante.
Le code permet désormais aux militaires et aux magistrats de briguer les suffrages universels à condition de se mettre en disponibilité avant de faire acte de candidature. Il augmente le nombre de sénateurs de 52 à 70. La diaspora aura désormais droit à 2 députés. PPC Oguligende, député, salue la fleur faite aux femmes et aux jeunes.
C'est la première fois que dans le code électoral au Gabon, on tienne compte de l'inclusion des femmes et des jeunes. 30% de quota minimum pour les femmes et 20% minimum pour les jeunes.
Les états-majors politiques n'ont pas encore réagi. Le premier ministre Raymond Nsima s'est félicité de l'adoption de ce code. Il a promis que le chronogramme de la transition sera respecté. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Y a-t-il des erreurs judiciaires ? Y a-t-il des innocents parmi les jeunes récemment condamnés à mort en RDC ? C'est en tout cas ce qu'affirme un avocat après que les autorités ont mené ces derniers temps l'opération Zéro Kulouna Ndobo, opération contre les Kulouna, les membres de gangs qui font régner la terreur à Kinshasa. Elle a débouché sur une centaine de condamnations à mort prononcées par la justice en première instance. Des prisonniers envoyés dans une prison de haute sécurité dans le nord-ouest du pays, mais il y a un problème pour maître Frédéric Kouamba. Il affirme que son client a été condamné alors qu'il n'est pas membre d'un gang. Il serait simplement membre de la chorale d'une église évangélique, arrêté alors qu'il rentrait tard d'une répétition. L'avocat dénonce ainsi des irrégularités dans cette procédure.
Des civils ou des prévenus des droits communs sont jugés devant les juridictions militaires, y compris certains mineurs présumés. Nous avons également déploré la manière dont et pour les raisons pour lesquelles notre client a été arrêté, c'est parce qu'il s'est promené la nuit en provenance d'une activité de son église. Le fait de les déplacer, personne ne peut relever appel. Et ceux qui ont relevé appel ne seront plus à mesure d'être présentés devant leur juge naturel qui siège à Kinshasa et non où ils se retrouvent en ces moments. Pour le cas de notre client, par exemple, Dieu merci Ndombasi, la personne elle-même se trouve en dehors de cette juridiction qui doit connaître de l'affaire en appel. Donc nous voulons que nos clients bénéficient de toutes les garanties pour éviter que certains innocents ne soient collés aux criminels et la précipitation qui a eu n'est plus la même lorsqu'ils relèvent appel. Nous sentons que Rien n'avance, tout est arrêté, comme si déjà condamné à purger sa peine.
La réaction de l'avocat Frédéric Kouamba en RDC. America first, l'Amérique en premier, le credo réaffirmé de Donald Trump qui faisait hier son grand retour à la Maison Blanche, investi officiellement 47e président des États-Unis. Il a clairement donné le ton lors de son discours sur la scène internationale. Il affirme notamment vouloir être vu comme un faiseur de paix alors qu'il veut reprendre le contrôle du canal de Panama. Mais son élection fait aujourd'hui en tout cas naître des espoirs chez certains. Au Somaliland, par exemple, cette république autoproclamée ayant fait scission de la Somalie en 1991. Depuis, elle est toujours en quête de reconnaissance. Or, la semaine passée, un comité de la Chambre des représentants a justement écrit une lettre au département d'État à Washington pour demander l'ouverture d'une représentation à Hargeisa, Gaël Lalex.
La lettre provient du comité en charge des relations avec la Chine. Elle déroule plusieurs arguments pour justifier une représentation américaine à Hargeisa. D'abord, la position stratégique du Somaliland, juste à l'entrée du golfe d'Aden. S'y installer permettrait de garder un œil sur la base militaire chinoise située à Djibouti et de surveiller les rebelles yéménites Houthis qui sévissent en mer Rouge. Ensuite, le Somaliland entretient des relations étroites avec Taïwan, allié de longue date des États-Unis. Il serait un atout majeur pour endiguer l'influence chinoise dans la corne de l'Afrique. Au cours du premier mandat de Donald Trump, ses diplomates avaient déjà témoigné un intérêt pour Hargeisa. Il est aujourd'hui appuyé par certains think tanks comme le Hudson Institute et plusieurs parlementaires républicains. Le mois passé, le député Scott Perry a déposé une proposition de loi pour la reconnaissance du Somaliland. De son côté, le ministre des Affaires étrangères somalien prévient « Toute reconnaissance du Somaliland déstabiliserait la région en créant un dangereux précédent ». Gaël Alex Nairobi, RFI.
Dire non aux violences faites aux femmes et surtout réclamer des actions concrètes des autorités pour enrayer le phénomène. C'est l'objectif au Tchad d'une pétition lancée ce week-end, émise par la Ligue tchadienne des droits des femmes. Elle est en ligne sur Internet. L'organisation lance cet appel alors que les affaires se multiplient tristement. Elle a recensé 4 cas de féminicide et 11 cas de viol sur la seule semaine passée au Tchad. La dernière affaire en date, l'agression d'une lycéenne par un commandant de la police en fin de semaine dernière. L'ONG souhaite obtenir 1000 signatures. Elle en a pour l'heure recueilli 385. Une arrestation annoncée par le gouvernement de Centrafrique. L'interpellation au Cameroun d'Armel Sayo vendredi dernier à l'aéroport de Douala où il reste en détention. Cet ancien chef rebelle centrafricain accusé de violation des droits humains. Il avait été ministre sous la transition Armel Sayo, puis après les accords de Khartoum entre 2019 et 2021, il avait repris les armes et lancé un nouveau groupe rebelle l'an dernier, la coalition militaire de salut du peuple et de redressement. Armel Sayo avait d'ailleurs récemment menacé de renverser le régime actuel à Bangui. Alors aujourd'hui, des démarches ont été engagées pour réclamer son extradition, nous dit le porte-parole du gouvernement centrafricain, Maxime Balalou.
C'est vrai, il a été arrêté. Il y en a qui veulent connaître la position du gouvernement. Nous ne travaillons pas de cette manière-là. La justice existe dans notre pays. Ce sont des criminels. Le moment venu, vous saurez l'action que le gouvernement mettra en place. C'est un travail qui se fait puisqu'il s'agit véritablement d'atteinte. On cherche à atteindre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous ne permettrons pas ça. Nous sommes déterminés à protéger la population et que nous n'accepterons pas qu'on puisse encore créer d'autres problèmes à la République centrafricaine. On lit ça dans les journaux que les autorités camerounais sont réticents de livrer. Ça, ce sont des spéculations. Nous ne sommes pas là. La justice camerounaise suit les procédures. De toutes les façons, les auditions ont commencé aujourd'hui et au fur et à mesure, on saura. Il y a tout un processus judiciaire qui va être mené en respectant le droit international. Et ça, c'est ce que nous aussi, on est un pays respectueux du droit international. Donc pour ça, vous aurez des informations supplémentaires.
Les mots de Maxime Balalou en Centrafrique. La Centrafrique où le Fonds monétaire international refermait hier une mission d'une semaine. Son communiqué final note des progrès dans la gestion des finances publiques, Charlotte Cossé. Mais des réformes autour du carburant restent attendues par l'institution de Bretton Woods.
Le FMI estime qu'un audit des coûts d'approvisionnement en carburant devrait contribuer fortement à la réforme des structures des prix. Objectif, améliorer la fiscalité pétrolière et envisager une baisse des prix à la pompe. Les prix des carburants en Centrafrique sont en effet les plus élevés de la région. Une demande d'audit, notamment liée à l'attribution en septembre 2023 de l'exclusivité de l'importation des produits pétroliers à l'entreprise camerounaise Neptune. Dans une note du 7 janvier, le ministre chargé du développement de l'énergie, Arthur Pierre, Algérie justifie une nouvelle fois ce choix, d'abord par la nécessité de régler la question des pénuries récurrentes et d'autre part par le besoin d'augmenter la fiscalité pétrolière. L'année dernière, les quantités de super sur le marché ont augmenté de 150% et de moitié pour le gasoil, pointe le ministre. Cependant, la fiscalité pétrolière, elle n'a bondi que de 30%. Si le ministre explique ce manque à gagner, notamment par les exonérations fiscales accordées à la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, certains analystes mettent en cause la gestion du secteur et la capture du marché par certains acteurs.
Charlotte Cossé. Une nouvelle polémique autour de Samuel Eto'o au Cameroun, l'ancien footballeur, aujourd'hui président de la Fédération de football. Il a reçu la semaine passée un titre honorifique de la part d'un chef traditionnel de la région du Nord-Ouest, la plus haute distinction d'ailleurs du village de Cochin, pour être précis. Mais ce titre a rapidement été contesté par la confrérie des chefs du Nord-Ouest. Elle désapprouve, disant que seul Paul Biya peut recevoir cet honneur, Polycarpe Samba.
Les photos et vidéos d'un Samuel Eto'o souriant et rayonnant avec ses nouveaux attributs de notabilité avaient à peine commencé à circuler sur les réseaux sociaux qu'un communiqué de la House of Chief entendait la confrérie des chefs traditionnels du Nord-Ouest est venu doucher les réjouissances qui allaient bon cours chez les fans de l'ancienne star des Lions Indomptables. Le communiqué signé du fond Yakum Kevin Tevin au nom de tous les chefs du Nord-Ouest qui croient savoir que Samuel Eto'o a été élevé au rang de fond des fonds, en français le chef des chefs, indexe d'abord un procédé de désignation non consensuelle, une violation des artefacts traditionnels et qualifie cet acte de nul et non avenu. De plus, le communiqué souligne que seul le président Paul Biya est attributaire du titre de Fon de Fon, plus haute distinction honorifique dans la noblesse traditionnelle du Nord-Ouest. Confronté à cette polémique, le Fon Cochin, à l'initiative de l'attribution du titre à Samuel Eto'o, a dû apporter quelques précisions à celle-ci. Premièrement, affirmait-il lui aussi, la distinction de Fon de Fon est exclusive au président Paul Biya. Deuxièmement, le titre qu'il a bien voulu décerner à l'ancien attaquant star du FC Barcelone ne l'est qu'au titre de son village et non au nom de toutes les chefferies du Nord-Ouest. Enfin, explicite-t-il encore, Samuel Eto'o n'est autre que son messager. Tout ne serait ainsi finalement qu'une question d'interprétation. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Yaoundé, où il est 8h42, on retrouve André-Anne Mélard pour notre matinale.
Bonne journée à vous.